Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Allez hop, deuxième jour de Florilège.
Morito hein pour tout le monde.
Allez, deux.
Non, on choisit les deux invités d'abord.
Eh bah, ben deux, c'est bien ce que je disais.
Oh, le foyou.
Bah alors, bon, moi j'avais pensé...
Alors, Benjamin Biolay.
Non, j'ai pas pensé à lui.
Bah, ce sera lui quand même.
Ah bon oui, mais ça, non, maintenant ça suffit.
Ouais, non mais Alex a raison, tu choisis que des beaux gosses. Voilà. Hier, Baptiste Le Caplain de Chiqui Cario.
Voilà, et aujourd'hui, le Casanova de la chanson française.
On a aussi notre mot à dire à un moment donné, quoi. Ça va.
Comme vous êtes prévisible.
Nous, oh là là.
Je sais que vous allez me dire ça, alors. J'ai une deuxième invitée qui va vous plaire.
Ah.
Adèle Van Rett.
Ah oui, ah oui.
Ah oui. Alors là, évidemment,
oui,
là,
c'est pour équilibrer.
C'est pas pour nous, c'est pour l'auditeur.
Oui, évidemment, là, oui, la Cindy Crawford de la philo, là, évidemment, là, ça va. Bah,
excuse-nous d'être des passionnés de philosophie.
Bah, oui, c'est ça, on est passionnés.
C'est pas tous les jours flagrant. Hein.
Bah, moi, dès que je vois passer une citation de Paulo Coelho sur Facebook, je la like.
Ah, oui.
Oh putain, la référence.
Bah ouais,
moi, je suis passionné de tout ce qui est Averroès, Leibniz, Habermas.
Vous dites plus rien?
Là tu nous as un peu bluffé là.
J'avoue, je connais pas ces gens, mais ça pose. Hein.
Mais comment tu sais tout ça, toi?
Eh ben, quand Adèle Van Rett, elle était venue après l'émission, j'étais allé sur Wikipédia.
Ah d'accord.
Et voilà, j'avais appris par cœur les 30 philosophes les plus célèbres.
Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu l'avais chopé.
Leibniz, c'est chaud à retenir. Leibniz.
Bonjour la France Inter, welcome in the startup, cet open space ouvert aux quatre vents, aux trois sujets, avec deux invités, dont Benjamin Biolay, à qui on fera jouer le rôle de Patrick Sébastien dans le sketch, alors qu'il vient nous parler d'un film adapté d'un roman de Marguerite Duras. On parlera aussi avec lui de la correspondance chaud bouillante entre Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann, car l'université de Yale publie leur correspondance. Et puis nous changerons de partenaire de jeu pour accueillir la jeune philosophe Adèle Van Rett. Elle répondra à cette question. Qu'est-ce que c'est que ce soupir visorique?
Non, c'est rien. C'est
Adèle Van Rett, donc, qui répondra à cette question. Peut-on être ferme et humain à la fois? Ou comment intellectualiser la schizophrénie du gouvernement à l'égard des réfugiés? Peut-on être bref à la fois exhaustif? Alex Vizorek, c'est le moment d'en faire la démonstration tout de suite.
Je pense que je suis un bon Kobe pour cela. Bonjour Charline Vanhoenacker. Alors je vous ai proposé une belle équipe. Hippolyte Girardot sera déguisé en Marguerite Duras. Guillaume Meurice traitera du sujet le plus tendu en ce moment en France, l'héritage de Johnny Hallyday. Mm-hmm. Et Juliette Arnaud d'un livre sur les origines du hip-hop. Comme d'habitude, on terminera avec notre chanteur fétiche Frédéric Fromet featuring la Compagnie Créole. Ça fait mourir les oiseaux.
Allez, laissez-vous faire. Vous êtes désormais entre les mains de Benjamin Biolay.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Benjamin Biolay, on peut vous voir sur grand écran dans La Douleur, le film d'Emmanuel Finkiel, d'après l'œuvre de Marguerite Duras. Marguerite, c'est l'écrivain en devenir, ça n'est pas encore Duras. C'est Marguerite Anthelme, la femme de Robert Anthelme, grand résistant, arrêté et déporté. Et La Douleur raconte la souffrance quotidienne de Marguerite. On est en juin 44, toujours sous l'occupation nazie. Et Marguerite, elle est épaulée par votre personnage, Dionys, et elle s'accroche à un rendez-vous quotidien avec Rabier, qui est l'agent de la Gestapo, qui est amoureux et qui a des infos sur Robert. Rabier, c'est Benoît Magimel. Alors, première question, c'est l'adaptation de La Douleur de Marguerite Duras. On sent bien qu'on est dans le réel, que les personnages sont réels. Il y a d'ailleurs à un moment François Mitterrand qui passe par là, Morland à l'époque, grand résistant.
C'est son réseau d'ailleurs.
C'est son réseau, tout à fait, incarné par Grégoire le Prince Ringuet. Donc, première question, vous incarnez un personnage qui a existé, qui est ce fameux Dionys Mascolo. Il a existé. Qui est-il? Qui est-il dans cette histoire? Qui est-il par rapport à Marguerite Anthelme?
Dans cette histoire, d'ailleurs, dans le récit, c'est un personnage qui est en filigrane, il est quasi fantomatique dans le récit original de Marguerite Duras. Après, ce qu'on sait, c'est parce qu'on sait des choses sur sa vie privée, mais c'est un proche du couple Anthelme, en fait. Quoi. Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils forment un couple à trois?
Oui, je pense, et on peut le dire sans aucun jugement moral, parce que ces gens ont bien d'autres préoccupations que ce genre de truc judéo-chrétien. Robert Anthelme est déporté à Dachau, et le seul but est de le ramener vivant.
Mmh. Alors, est-ce que, comme dans le film, Dionys est allé rechercher Robert Anthelme à Dachau? Est-ce qu'on a
Je crois pas, en tous les cas, moi, je m'étais intéressé à tout ce récit, toute cette histoire, via le livre de Pierre Péan, je crois, Une jeunesse française sur François Mitterrand. Et Mitterrand racontait qu'avec une délégation, il était secrétaire d'État aux anciens combattants du gouvernement provisoire, et il avait entendu une petite voix parmi un tas de cadavres qui disait François, François, et qu'il avait reconnu en Thelme et qu'il l'avait ramené en trafiquant des passeports diplomatiques avec une délégation. Après, dans le récit de Duras, c'est différent, mais sachez qu'elle l'a écrit... Enfin, elle l'a retrouvé, entre guillemets, longtemps après les événements.
Ah, d'accord. Donc, vous l'avez lu, la douleur de Duras?
Oui, oui, j'avais lu L'Espèce humaine, c'est le bon titre, de Anthelme et tout, qui était un livre saisissant. Ouais, c'est...
Et est-ce que vous avez été surpris par l'adaptation qui a été faite par Emmanuel Finkel, le réalisateur?
J'étais ébloui en le voyant, parce que moi, évidemment, j'ai accepté avec joie de travailler avec Emmanuel et avec Mélanie, etc., Benoît. Mais je me disais, c'est presque impossible, son truc, quand même, d'adapter ça au cinéma. Et je trouve qu'il a fait un grand film.
Ça vous semblait impossible, pourquoi? Par la complexité des sentiments?
Ce monologue, cette voix off, et c'est très répétitif, du reste. J'ai toujours aimé, moi, ce côté vraiment ultime dans sa prosodie, je sais pas comment dire ça, mais au cinéma on a du mal à imaginer tout ça.
Et comment on vous convainc, vous qui êtes acteur, on va dire occasionnel, c'est-à-dire que vous choisissez vraiment ce que vous avez envie de faire, de choisir ce scénario-là alors que vous pensez que c'est impossible?
Ah, parce que je voulais travailler après avoir rencontré Emmanuel Finkel, dont j'avais aimé les films, et
vous
déjà
vous faisiez confiance.
Ah oui. Et puis il m'a demandé de faire des essais et tout, donc à partir du moment où lui a confiance, c'est plus facile de se faire confiance à soi-même. Au début, j'étais évidemment très très quoi qu'il me demande ça.
C'est comme ça que vous marchez en tant qu'acteur, vous choisissez les personnes qui vous font confiance et dont vous aimez le travail.
Bah oui, oui, parce que c'est vraiment par rapport aux vrais acteurs, il y en a en face de moi. Je me sens toujours un peu
à la retraite, hein, il est à la retraite. Merci Guillaume.
Par exemple, je suis pas comédien, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais pris de cours, tout ça, donc j'y vais avec un grand plaisir, j'essaie de croire au maximum à ce que je suis en train de faire, mais je suis conscient de ce que je suis comme acteur, que c'est plus une forme de présence qu'on va chercher qu'un jeu démonstratif, par exemple. Sure as the
C'était Jimmy Cliff, The Yarders I Come, par Jupiter.
Élégant.
Benjamin Biolette en notre compagnie sur France Inter et on va aborder avec vous ce premier sujet à propos du cinéaste Claude Lanzmann qui a vécu 8 ans avec Simone de Beauvoir. 8 ans de passion révélés par 112 lettres que Simone a envoyées à Claude. Il aurait souhaité les publier. Mais voilà, la fille adoptive de Simone de Beauvoir s'y oppose. Le cinéaste a donc confié ce trésor à la bibliothèque de l'université de Yale aux États-Unis. Bon, la question maintenant, c'est qu'a répondu Claude Lanzmann à Simone de Beauvoir? On sait, nous, on sait.
Je sais que vous aimez la poésie. Et ça tombe bien, j'en suis moi-même très heureux. Et je me suis permis d'écrire quelques vers à la gloire de votre beauté. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Besoin de rien, envie de toi, comme l'hiver aime l'automne. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi.
Benoît bien,
dans Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est une interview de Claude Lanzmann accordée au Monde ce week-end, Monde daté d'aujourd'hui, qui titre d'ailleurs Beauvoir, l'exil américain des lettres à Lanzmann. D'abord, est-ce que vous saviez, vous, que Claude Lanzmann et Simone de Beauvoir...
Non, j'ai découvert ça en arrivant ici, en lisant un article. Non, je ne savais pas du tout.
Et donc,
en plus, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais vraiment... Ils font ce qu'ils veulent, les gens, quoi. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais alors,
justement, attendez, justement.
C'est un avis.
C'est mon avis.
Mais c'est d'autant plus intéressant que Claude Lanzmann, 92 ans, dit « J'aurais tellement voulu qu'elles soient publiées, ces lettres. Elles ne peuvent pas l'être, donc je les confie à la bibliothèque de l'université de Yale et peut-être les publieront-ils un jour. » Ça fait une double page dans Le Monde.
Non, mais c'est de la correspondance privée. Je veux dire, Claude Lanzmann, c'est un grand cinéaste. On leur remercie pour son travail, on sait à quel point. Mais moi, je me fiche de savoir ce qu'il écrit à sa petite copine.
Il y a eu deux précédents, là, récemment. Il y a eu les lettres de Mitterrand, et tout le monde disait que ça avait une vraie grande valeur littéraire. Il y a eu Camus, Cazares, les correspondances qui ont été publiées, et avec l'accord de...
Mitterrand, c'est un homme d'État, je veux dire. C'est un homme, il est dans l'histoire, définitivement. C'est
pour Camus, par exemple, on a un poète.
J'ai lu quelques extraits, je trouve ça magnifique. Mais j'avoue que le principe me gêne, même quand c'est Camus et Cazares.
Il y a les SMS de Matt Pokora, normalement, qui devraient sortir dans la Pléiade.
Non, c'est vrai. Donc à 92 ans, Claude Lanzmann, outre toute son œuvre, voudrait aussi donc léguer les lettres qu'il a reçues de Simone de Beauvoir. Enfin, c'est un sujet aussi interpellant parce qu'il y a cette intimité.
La correspondance appartient à la personne qui la rédige, qui l'envoie. Donc c'est
la raison pour laquelle il ne peut pas les publier.
Ouais, mais il les donne à l'université de Yale. Et ils vont en faire quoi?
Il n'y a pas grand chose. Ils ne peuvent pas en faire grand chose. En fait, c'est un peu compliqué.
Vous faites gaffe quand vous écrivez aujourd'hui par les nouveaux moyens. Non, mais c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut-être un jour sorte la correspondance de Benjamin Biolette? Ah non mais sérieux.
Elle est dans ses chansons, non? Elle est dans vos chansons.
Ça n'a pas d'intérêt, je veux dire.
C'est pas un problème d'intérêt. C'est-à-dire que, voilà, peut-être...
Non, si j'étais Emmanuel Macron, je ferais attention à ce que j'écris aux gens, mais là, moi, je fais pas trop attention, quoi.
Eh oui, Hippolyte Girardot. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce soupir?
Non, rien.
Ah, mais fait peur.
Je vous entends. Ah. Bon, c'est à moi, donc.
Mais c'est ça que ça veut dire.
Yeah.
Vous m'avez suivi.
Ah, Benjamin Biolette. Je suis ravi de vous voir, de vous recevoir. Moi, j'ai vu le film La douleur, Paris réussit, la douleur fait mal. Je sais pas comment elle fait, votre actrice, mais bon, c'est pas qu'elle fume. Elle est juste en train de concourir pour le César de la plus grosse fumeuse de clope de 2018. Ça fait mal rien que d'y penser. Moi, je sais pas si j'aurais pu, franchement. Alors, vous demandez pourquoi je me pose la question, c'est vrai, ça. Eh bien, dans le dossier de presse, on dit que le metteur en scène, Emmanuel Finkel, a longtemps hésité entre deux actrices. Évidemment, tout le monde se demande qui pouvait concurrencer Mélanie Thierry, parce qu'elle est stupéfiante. Et pas seulement parce qu'elle fume. Hein. Non, je l'avais vue au théâtre, et franchement, quand elle jouait le vieux juif blonde et qu'elle avait 90 ans, moi, je croyais pas qu'elle allait tenir jusqu'à la fin de la représentation. Alors, avec qui d'autre Emmanuel Finkel a-t-il hésité? Qui? Eh ben moi, je vais vous le dire, en exclusivité dans Par Jupiter, moi. Mais oui, tout le monde rigole, mais oui.
Non,
mais
rien
oui,
rien
mais oui. Eh oui, Benjamin, un peu plus. Et c'était moi que vous auriez serré dans vos bras puissants. Je serais devenu, évidemment, tout simplement, votre muse. Hein, et vous m'auriez dit, je t'attendais en vain. que tu sois enfin ma femme. Depuis le temps que je te réclame. Au minimum, un télégramme. Param, 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 pam, pam. Le destin déguisé en Emmanuel Finkiel en a voulu autrement. Vous vous demandez, mais quoi? Mais que fait Hippolyte dans un casting pour jouer Marguerite Duras? Eh bien, voyez-vous, c'est que pour un acteur comme moi, c'est pas tous les jours facile, vous savez. Les rôles se raréfient, il faut de la chair fraîche, du beau gosse avec des beaux cheveux, du sexe à pile et du regard qui tue. Pas facile, facile. D'ailleurs, vous voyez, je fais de la radio filmée en ce moment. Mais bon, quand j'ai vu qu'il cherchait Marguerite Duras, je me suis dit, ça c'est pour moi. Non, ça c'est pour moi. Non. Parce que Marguerite, c'est ma cam quand même. La douleur de Marguerite Duras. Marguerite Duras dans la douleur, même pas mal, hein, même pas mal. Parce que.
Attendez, où on va se déshabiller?
Oui. Benjamin.
Il y a du costume.
Marguerite, c'est moi. Forcément. Je le crois, forcément. J'ai dit, Emmanuel ? Oui. Il m'a dit, oui. Oui, Emmanuel ? Je lui dis, Emmanuel ? Oui ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Hippolyte. Il ne sait pas. Emmanuel ne sait pas. Il hésite. Il doute. Emmanuel, c'est cela, il doute. Forcément. Alors je lui dis, et puis Emmanuel me répond. Ça y est, il ne doute plus, il sait. Et il me dit, non, Hippolyte, tu ne seras pas Marguerite. Pourtant, lui dis-je, je serai sublime. Forcément sublime. Je sais, oui, et même si vos prénoms riment, c'est non, non, ça ne rimerait à rien. Et je comprends qu'Emmanuel ne veut pas de cette Marguerite-là. Il ne veut pas la Duras qu'on connaît. Il veut pas la Duras d'apostrophe de Bernard Pivot, celle qui en 1985 publie la douleur. Mais il veut celle qui en 1945 vivait la douleur. Je respecte sa décision, évidemment, mais je la regrette, hein, parce que j'aurais vraiment... Benjamin, tellement aimé que vous me chantiez, je ne t'ai pas attendu en vain. Viens dans mes bras, Hippolyte. Oui, c'est toi, ma Marguerite. Et même si tu as une bite et que tu n'es pas dame, pas dame, pas dame, pas dame.
Brillant. Bravo.
Alors là, Hippolyte
Gérardot. Un grand merci à Anne-Sophie Lalonde.
Oui, notre réalisatrice. une réaction, Benjamin
Biolay. C'est rare de rire et d'être ému dans les deux mêmes minutes, parce que j'ai eu un petit moment de...
Exactement.
De cette Duras, qui effectivement n'est absolument pas le personnage du film. Ouais, en plus, ça m'a ému.
Et on va passer de Duras à un tout autre sujet, Benjamin Biolay.
Mais oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre, un rôle que vous ne connaissez pas, que nous... pouvez pas avoir préparé. On a pensé à vous peut-être pour jouer le rôle de Patrick Sébastien.
Super mauvaise vue. Vous
êtes... Est-ce que vous avez des lunettes?
Non, mais on va se démerder.
Patrick Sébastien qui est sur la sellette sur France 2 en ce moment, s'est dit voilà, peut-être interpréter le rôle d'un comique troupier. Ça vous amuserait. Il se rend dans le bureau de Delphine Ernotte parce que évidemment, elle a des reproches à lui faire et il y a le CSA qui est présent.
Entrez, monsieur Sébastien.
Salut ma puce, je suis super content de te voir, c'est génial.
Oui,
je peux pas jouer Patrick Sébastien, je sais même pas à quoi il ressemble. Je sais même pas à quoi il ressemble, je confonds avec
Sébastien. Très festif, très festif.
Je suis pas certain d'y arriver, j'ai une patate.
Et puis je suis pas votre puce, alors asseyez-vous.
T'as maigri, non? En tout cas, t'es toute mignonne. C'est que du bonheur.
Bon, je vous présente Olivier Schramek du CSA.
Du
CSA.
J'ai entendu parler. C'est quoi, je vais t'appeler Schneck. C'est plus facile à retenir.
Bon. Monsieur Sébastien, je vais pas y aller par quatre chemins. On a un problème avec vos émissions.
Ah bon?
Oui, c'est souvent sexiste. Hein.
Sexiste? J'adore les gonzesses. D'ailleurs, j'en mets plein dans mes émissions pour faire joli.
Oui, c'est garafleux. Vous trouvez ça normal de chanter sur le service public une petite pipe avant d'aller dormir?
Bon, enfin, mon con, on parle de la pipe qui se fume. t'as l'esprit mal tourné, ma schneck.
Schramek.
Bon, je te taquine, allez, pète un coup, mon lolo.
Non, là, franchement, vous allez trop loin, là, c'est trop loin. Là,
c'est ce que vous dites toutes.
Bon, si vous continuez, on vous fait une texte, hein.
Elle était bonne, la blague à texte.
Bon, monsieur Sébastien, comme je vous l'ai demandé, avez-vous de nouveaux projets d'émissions plus adaptés, je dirais, à la honte de la République? Pardon, au service public.
Ah bah, tu vas voir, ma Delphine, j'ai plein d'idées, ça turbine là-dedans. Pourtant, j'ai pas fait Sciences Po, moi.
On vous écoute, monsieur Sébastien.
Alors, le premier projet, c'est une émission littéraire.
Ah, très bien.
Et ça va s'appeler La plus belle librairie du monde.
Ah, bah ça va vous changer.
Et on met les femmes à l'honneur. On n'invite que les écrivaines.
Ah, très bien, ça vous fait des progrès, hein.
On les voit toutes assises à leur table de travail avec une plume et main. Et là, on passe une de mes chansons, elle danse, et à la fin, la plume, elle se la met dans le cul.
Non,
vous auriez pas autre chose.
Oui, on appelle ça The Fiesta World Edition.
Et c'est quoi?
Une émission qui célèbre les cultures du monde entier, et c'est que du bonheur.
Hein. C'est mieux ça, alors ça se présente comment?
Alors on invite des artistes des quatre continents.
Bah, jusque-là, c'est bien.
Et on mélange tout. Et on fait une grande partout sur mes chansons.
Non.
Je vous laisse bon, une dernière chance. Bon,
j'ai un dernier concept plus familial, ça s'appelle Tire sur mon doigt. Une soirée exceptionnelle avec les plus grands pétomanes.
Voilà, vous comment passer de Duras à Sébastien. Voilà,
c'est Sébastien sous Temesta, mais ça marchait.
Benjamin Biolay.
Ah oui, il a plus d'énergie, lui. Oui.
Benjamin Biolay, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir de parler avec vous.
C'était une soirée, et puis bravo.
À côté de vous, il y a le facétieux Guillaume Meurice.
Oui, chronique juridique. Aujourd'hui, on va parler des droits de succession avec un exemple concret, si vous le voulez bien, pour que chacun comprenne bien. Alors, j'ai pris un peu au hasard dans la presse la succession de Johnny Hallyday. Parce que j'ai vu que tout le monde avait un avis là-dessus. Hein. Il manque plus que celui du Dalai Lama et de Laurent Wauquiez. Et à mon avis, ça ne saurait tarder. Et on sera au complet. Mais l'avis qui m'a intéressé aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'avis des gens à qui appartenait Johnny. Le peuple de France, hein, on a tous quelque chose en nous de Johnny. Pour Juliette, par exemple, c'est son foie. Je me suis donc baladé dans les rues de Paris ce matin. Et j'ai tout d'abord rencontré cette dame qui a un avis sur Johnny.
C'est pas un chanteur, c'est un drogué, c'est un... Enfin, il est devenu moche comme tout.
Ah bah là, il est devenu mort, surtout.
Oui, surtout. Bah, moi, ça ne me gêne pas du tout.
Qu'il soit mort?
Oui.
Ouais, bon, alors là, elle n'est pas concernée. Hein, elle ne sent pas le sujet. Elle n'aime pas la grande musique. A priori, je n'ai pas osé lui annoncer que Matt Pokora était encore vivant. Allons voir un autre citoyen qui, lui non plus, n'aimait pas Johnny Hallyday. Mais pourquoi?
Parce que je préfère Claude François. Ouais, par contre, je ne connais pas sa vie.
Ah bah là, il a une fille cachée.
Il doit en avoir plusieurs, même des enfants cachés, lui, je pense. Parce qu'il aimait ça, la belle vie, lui, les femmes. Hein.
Mais il aimait bien les très jeunes, surtout.
Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien, j'ai la même vie que lui, alors.
Ouais, alors attends, calme-toi. Calme-toi, Marc Dutroux. Non. Quand je ferai un sujet pédophilie et courant alternatif, je m'intéresserai à Claude François. Mais là, c'est Johnny. Alors, j'ai évidemment rencontré des fans de Johnny, dont un qui s'appelait comment?
Johnny.
Qui s'appelait Johnny, n'est-ce pas?
Oui.
En hommage à Johnny Hallyday?
Bah oui, certainement à l'époque, oui. Par moi, mes parents, oui.
Bah
oui.
Et alors, quel regard vous portez là-dessus, vous?
Bah, moi, j'en suis content, j'ai toujours bien aimé. Hein.
Ouais, mais alors, vous avez vu ce qui se passe avec l'héritage, contesté, etc.
C'est de la magouille, ça, c'est de la pub à la télé, ça.
Ah, vous y croyez pas?
Non, pas du tout.
Ah, le déni. Le déni, hein, c'est une phase essentielle dans ce long travail de deuil. Hein. Laetitia serait une invention de la CIA, destinée à troubler la quiétude de notre beau pays. De la même manière que les services secrets belges nous auraient envoyé des éléments perturbateurs pour brouiller les antennes avec des ivres virgules et des questions avec des réponses intégrées à l'intérieur. Tout est possible. Autre type de citoyen, ceux qui défendent Laetitia. Madame.
Moi, je suis du côté Laetitia, oui, à 100%. Johnny était très intelligent, donc ce qu'il a fait, il a bien fait.
Ah, est-ce qu'on est sûr que Johnny était très intelligent?
Ah, moi, je suis certaine.
Alors, attention aux fake news quand même. Il faut avoir des preuves quand on avance des éléments comme ça. Alors, pour avoir un avis tout à fait objectif, je dirais même mesuré, je suis allé voir Edith. Hein, vous commencez à la connaître, Edith. C'est l'esthéticienne la plus proche de la maison de la radio. Donc, c'est celle qui épile le maillot de Dominique Seux et le sillon interfessier de Bernard Guetta. Et Edith, c'est vraiment toujours, je dirais, l'assurance de la pondération, hein, d'une parole apaisée. Ça va nous faire du bien. Alors, Edith, parlons un petit peu de Laetitia.
C'est pire qu'une connasse, c'est une menthe religieuse, elle est là, tout pour lui, elle le gardait tellement comme ça, plus personne n'approchait comme ça, tout l'argent pour elle.
Mais Johnny, il l'aimait.
Mais quand un homme, il est amoureux, moi j'ai assez d'expérience pour te dire, il voit pas, il a de la merde dans les yeux, je suis désolé.
Non mais ne sois pas désolé, Edith, hein, on le sait, quand un homme est amoureux, il a de la merde dans les yeux et dans les oreilles aussi, hein, quand il sort avec Elisabeth Lévy notamment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Edith, eh ben, elle est bien renseignée quand même.
Il y en a un qui a dit, il a pas peur, mais elle a des menaces de mort. Hein. Il y en a un il lui a dit, t'as pas intérêt à mettre un pied en France, que tu ta gueule. Il lui a dit parce que ça va barder. Pour toi, la vénale. Et même le père, c'était bien dans la presse sérieuse, c'était dans Match.
Paris Match, c'est la presse sérieuse.
Bah, moi, je suis sérieux.
Bah, oui, c'est sérieux. Si vous voulez l'actu de Ségolène Royal au pôle Nord, vous ouvrez Paris Match, la dernière coloscopie de Sarkozy, dans Paris Match aussi. C'est sérieux et c'est grâce à ça qu'elle sait des choses, Edith. Qu'est-ce qu'elle sait sur Laetitia ?
Il y avait un amant depuis longtemps et on croit qu'elle tape. Ah bon, bien sûr, Johnny pouvait plus bander parce qu'il y avait tout ce qu'il prenait. Attends, elle se tape le majordome, comment il s'appelle, le brin qui est pas mal.
Un majordome ?
Non, non, le manager à Johnny s'appelle.
Le manager.
Voilà, je sais comment il s'appelle. Bah, il est dans Paris Match là. Bah, il a couché avec elle. J'en
c'est
suis
pas
sûr.
Vrai.
Si, si, si.
Ah bah merde alors, comme quoi le complot est peut-être pas là où on pense. Et en même temps, se faire baiser par un manager, hein, c'est un petit peu toute l'histoire du show business. Bon alors, comme moi, vous savez quand même, j'aime bien fédérer et trouver des solutions. J'ai une proposition. D'abord, est-ce qu'on est bien d'accord que Johnny appartenait à tous les Français ?
Bah, ça c'est vrai.
Et bah alors, on devrait redistribuer toute sa fortune aux Français, non ?
C'est vrai, parce que c'est. Bah, quand on voit trois présidents à la Madeleine, qu'on voit qu'on est à 1,5 million, 19 millions devant la télé, parce que mes gomines qui n'ont pas pu aller, c'était impressionnant. On a vu Lynn Renault qui nous a fait comme ça. Hein. C'était super émouvant.
Lynn Renault vous a fait coucou ?
Bah, elle faisait coucou, genre, oui, elle était. On a vu, on les a tous vus avant, on a vu la salope. Excuse-moi de dire.
Voilà, ça, c'est Laetitia alors.
Mais ça, c'est la Laetitia. Tu vois, sur Facebook, on est tous 150 000 au moins contre elle. Hein. Et il y en a par contre qui disent oh, c'est privé, il ne fallait pas s'en mêler. Si Johnny, il était un monument, il appartenait aux gens.
Mais c'est bien ce que je dis, d'où mon idée de redistribution. On arrête les conneries et puis voilà, on fait comme avec voilà, la société
en général.
Le patrimoine, exactement. Et en plus, ça rattraperait tous les impôts qu'il n'a pas payés. Si on a tous quelque chose en nous de Johnny, ce serait peut-être bien de commencer par faire avec son pognon ce que Johnny faisait avec son whisky, faire ruisseler.
Je m'élance et je danse en silence, si langoureusement. Pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue ou
que vous avez reconnu, c'était
Camille.
Eh ouais, langue.
Bah, bien sûr.
Vous êtes toujours sur France Inter, par Jupiter. Quel bon goût vous avez. Et en plus, on vous promet une deuxième partie philosophique avec Adèle Van Rett. Adèle Van Rett est prête, bien sûr. Bah, c'est les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture. Et vous venez aussi nous voir aujourd'hui pour un ouvrage qui s'appelle Le complexe de Scheherazade. C'est une collection qui débute, parue, c'est les éditions de l'Observatoire. Johann Sfar est le premier, on peut dire peut-être invité de cette collection. Sous votre houlette, Adèle Van Rett, il explique les textes, les romans qu'il l'on construit, le premier qu'il a lu, ceux qui ont été fondateurs, ceux qui ont développé sa création, etc. Johann Sfar, c'est un artiste extrêmement foisonnant. On se demande s'il n'a pas parfois plus publié qu'il n'a lu, mais ça non, pas encore.
Bah, on découvre que ce n'est pas vrai quand on lit le livre. Oui, en tout cas, on voit qu'il a beaucoup plus lu qu'il n'a publié.
Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut percer à jour quand on s'intéresse à un artiste, celle-là la promesse de la collection, quand on s'intéresse à un artiste à travers ses lectures, mais aussi peut-être le sens de ses lectures, c'est-à-dire par quoi il a commencé, etc. Qu'est-ce qu'on arrive à percer d'une personnalité d'un artiste à travers ça?
On se rend compte que la création n'a pas forcément de secret. On a toujours ce mythe du génie, du gars qui va prendre un... D'ailleurs, là où je suis assise, il y a plein de dessins de Johann Sfar.
Ce
sont les seuls qui ne sont pas un peu dégueux, hein, par rapport à ce qu'il y a à côté.
Il y a des graffitis de Gueuluc,
voilà,
Patrice Lecomte.
Des choses... Voilà.
Oui, c'est
je
ne vais
pas
oui.
trop décrire.
Il y a des belles choses.
Donc on s'imagine qu'il faut beaucoup de génie, qu'il y a que tout ça vient jaillir de nulle part et qu'on peut produire un chef-d'œuvre. Ce qui me plaît dans la façon qu'a Johann de parler de son travail, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de recette, mais il y a du travail, justement. C'est-à-dire qu'il y a une détermination, il y a une assiduité, il y a énormément d'investissement pour produire quelque chose qui est loin de sortir de nulle part, qui est vraiment le fruit d'une concentration, d'un désir très très fort. Ça, c'est très beau de voir que ce désir à l'œuvre, mais envers et contre tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on ne lui avait pas mis une bande dessinée, enfin une feuille de papier entre les mains, ça aurait été autre chose. Il aurait fait autre chose. Vous voyez, c'est plus fort même que lui. Et donc voir comment lui trouve les mots pour parler de ça, je trouve ça assez émouvant en fait. Oui.
Très très nourri de toutes ces lectures. Est-ce qu'il est possible de dégager une sorte de parcours de lecture? Est-ce qu'il y a une forme de cohérence
chez lui?
Oui, dans le premier livre qu'il a lu, dans peut-être une suite peut-être un peu boulimique de quand il découvre un auteur, il a envie de lire tout de cet auteur et puis il passe à un autre. Alors, est-ce que ça dit quelque chose des personnes, ça, la hiérarchie, la façon dont on classe les choses?
Alors justement, il est contre la hiérarchie et je crois, mais alors je parle quand même sous son contrôle, est-ce qu'il peut appeler si jamais...
Oui, bien sûr,
évidemment.
Il peut tweeter, je suis
voilà. Il est très tweet.
Je pense que l'idée même de cohérence, lui, c'est pas forcément celle qu'il privilégie en premier. D'ailleurs, dans le livre, on le voit bien, on passe de Romain Gary à Lovecraft, à Astérix et Obélix, à des auteurs beaucoup plus contemporains. Il y a pas tellement... La seule chose qui lui plaît, c'est quand il y a un auteur à l'œuvre et qui fait tout pour dire ce qu'il a envie de dire, quelle que soit la forme. Il est vraiment contre l'idée de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haute culture et de basse culture, il n'y a pas la philo d'un côté très élevé, le ciel,
mélange,
voilà, et la bande dessinée qui serait un art un peu vulgaire. Et ça, je trouve ça très séduisant, et puis je pense qu'il a raison. Si vous me demandez, je vous dis, je pense qu'il a raison, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de hiérarchie entre les arts.
Et c'est paru aux éditions de l'Observatoire.
Par contre, pour les droits d'auteur, là, c'est que dans un sens.
Ouais, c'est ça. Le lecteur est moins riche, il est riche du texte. Vous savez,
beau,
ça compte aussi.
Ça y est, on commence avec les polémiques et tout. Et de Paf le chien au chemin de la philosophie, il n'y a qu'un pas qui sera franchi par Adèle Van Rett, qui est connue pour sa grande souplesse. On appelle la Nadia Comaneci de la radio. Et elle va le prouver tout de suite à 17h26 sur France Inter. Avec ce premier sujet, Gérard Collomb présente son projet de loi immigration, un savant mélange d'humanité et de fermeté, nous annonce-t-on. Un projet de loi où il proposera d'augmenter le nombre d'expulsions. Fermeté. Mais il en parlera en Conseil des ministres avec ses collègues autour d'un café. Humanité. Dans le fond, c'est un équilibre qui sous-tend toute la société. Hein, exemple.
En fait, papa, je vais me marier.
Et c'est quelqu'un du quartier, on le connaît, comment il s'appelle?
Chung-Fi. Hein?
J'ai même entendu parler, comment tu dis?
Chung-Fi. C'est pourtant simple.
Chung-Fi.
Chung-Fi.
Il est là.
Ah ben, Srouya.
Mais c'est un des ouvriers du chantier, tu dois pas épouser un des ouvriers du chantier, mais Caroline, t'es complètement... Samy, on met pas les coudes sur la table!
Avant d'être un ouvrier, je te signale que c'est d'abord un homme. Un sans-papier qui va être envoyé dans son pays où il risque la peine de mort. Alors j'ai décidé de l'épouser pour des raisons humanitaires.
Mais on s'en fout d'humanitaire, pardon. Mais... En plus, il porte une de mes chemises.
Un sans-papier? Et ils sont au courant, l'inspection du travail?
Oh, mais ta gueule, toi!
C'est Denis Podalydé, c'est Chloé Koulou dans Neuilly sa mère de Jamel Ben Salah. Voilà, une politique de migration qui allie fermeté et humanité. C'est le slogan du gouvernement pour vendre aux Français le projet de loi. Est-ce que ça peut être une question philosophique? On pourrait le formuler en disant, vous avez 4 heures, asseyez-vous. Peut-on être à la fois ferme et humain?
Vous voulez que je vous fasse la disserte?
Non, pas forcément, parce que si vous pouvez, oui,
parce
mais
que
c'est pas évident.
On pourrait faire... c'est très simple, parce que est-ce que la fermeté de l'humanité s'oppose? Est-ce que le propre de l'humanité, c'est pas, en se distinguant de l'animalité, de justement pouvoir faire preuve de fermeté? Est-ce que l'animal est jamais ferme? On ne dit pas d'un animal qu'il est ferme, on ne dit pas ce chien est ferme, ou alors on a envie de le manger, ce qui est très bizarre. La fermeté...
Le chien des CRS est ferme. Hein,
voilà, celui qui s'est pris la balle, il n'était peut-être pas assez ferme, justement.
Il s'y attendait pas,
peut-être que la fermeté est une des composantes de l'humanité. La question, c'est est-ce que, dans ce cas-là précis, est-ce que l'humanité ne se réduit pas à la fermeté ? Et on perd autre chose de l'humanité qui serait une forme de, d'altruisme, de cœur, de sensibilité.
Et donc, dans la dissertation, c'est le postulat que l'humanité serait réduite à la fermeté ? C'est juste un postulat, c'est juste le...
C'est juste une hypothèse qu'on va contredire ensuite.
Ah, voilà, c'est ça, bien sûr.
Est-ce que c'est un corollaire ? Pardon, je voulais juste dire corollaire.
Non, ça, c'est pas tellement dans... Si, dans l'éthique de Spinoza, c'est vrai que vous connaissez par cœur.
Je le connais en hollandais. Donc j'ai un peu de mal à traduire.
C'est vrai que c'est déjà très bien résumé. Et sur la question de l'accueil des réfugiés, est-ce que la philosophie peut apporter des clés sur ces questions-là?
C'est toujours bizarre de répondre à cette question parce que la philosophie, c'est pas comme...
Finkielkraut a dit oui. Il a dit virer-les après.
Oui, voilà. Il n'y a pas une utilité forcément pratique. En revanche, là, je crois qu'on parle d'urgence. Je veux dire, bien sûr que la philosophie a toujours une utilité, pour, ne serait-ce que pour définir les termes qu'on emploie. Vous m'avez demandé de le faire. Humanité, qu'est-ce que c'est? Fermeté, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça, je pense que c'est assez important pour voir qu'en l'occurrence, quand on parle de fermeté, c'est vraiment un euphémisme. C'est pas de la fermeté, là. C'est dire non. Où est l'humanité quand on fait preuve d'autant de fermeté? Je pense que c'est vraiment une question qui se pose. C'est pas la philosophie qui va venir en aide aux migrants. Faut pas se leurrer. Enfin, c'est pas ici que se place le rôle du philosophe.
Mais elle peut aider à la réflexion sur ce sujet.
Et même il faut, parce que si on réfléchit pas en amont, les actions elles-mêmes sont souvent inconséquentes. Enfin, si on agit avant de s'être posé la question, on agit souvent mal. Donc c'est là où il y a une éducation en amont qui est vraiment importante. Et je pense que la philosophie peut vraiment apporter ça.
Quel livre vous conseilleriez à un CRS, par exemple?
Anna Arendt.
Ah, intéressant. Lequel?
Oh ben, ça dépend. Il y en a beaucoup. Mais alors bon, sur la question de la crise de la culture.
Ah ok, voilà. Très bien. Alors s'ils nous écoutent, on est beaucoup écoutés par les CRS dans les cars.
Mais les CRS lisent beaucoup, hein.
Bien sûr.
Pas de préjugés, beaucoup de philosophie mais aussi, j'en ai jamais invité, mais non, je sais pas.
Si, bien vu.
Il est vrai que
la gauche fermée d'esprit. Hein.
La philosophie et l'urgence, ça paraît dichotomique, mais en tout cas...
Il y a beaucoup de philosophes qui écrivent même sur l'urgence. Alors ça peut paraître paradoxal, mais encore une fois, si on place pas la philosophie du côté de l'action, mais de la réflexion, et qu'on part du principe qu'une action peut pas être bonne sans réflexion, alors il faut les deux ensemble. Et réfléchir à ce que c'est que l'urgence permet peut-être d'agir mieux et plus vite au moment donné.
Et on se sent moins con hein, quand on écoute Adèle Van Rett.
Moi, je vais réécouter le Rendez-vous familier parce que...
Moi,
je me sens encore plus con parce que j'ai rapigé.
Sur l'humanité et la fermeté, c'était très clair en tout cas. Adèle Van Rett avec nous et Juliette Arnaud, bien sûr, pour nous parler littérature.
Oui, alors plus précisément d'un livre qui n'est... Si, on peut dire que c'est la littérature qui s'appelle « Sample aux origines du hip-hop » et qui est signé Brice Miquelet. Alors, on est fin des années 70, on va reprendre du départ. Pendant que Manhattan et sa clientèle chic et fric suent sur de la musique disco au Studio 54, dans le même temps, il y a une poignée de jeunes gens dans le Bronx qui montent des fêtes clandestines avec des codes nouveaux, des danses nouvelles, des attitudes qui finiront par devenir mainstream quelques décennies plus tard. Je parle bien sûr du hip-hop. Le 13 juillet 1977, il y a une séquence caniculaire à New York et bam, blackout. Plus d'électricité du tout. Ce qui se traduit dans le Bronx par un pillage insensé de magasins. Il y aura quand même 3700 personnes sous les verrous en une seule nuit. Ça fait beaucoup. Et les magasins d'équipements électroniques sont les plus durement touchés avec les platines pour cible prioritaire. Les platines qui étaient absolument nécessaires pour faire ces fêtes-là, pour fabriquer cette musique-là. Si on va vite, on pourrait dire que sans le blackout de 77, sans tous ces vols, le hip-hop ne serait pas né, mais on va pas parler vite. Après, on pourrait aussi causer sémantique, champ lexical et vocabulaire. Est-ce que Robin des Bois est un délinquant? Est-ce que prendre aux riches pour rendre aux pauvres, ça s'appelle vol? Est-ce que ça serait pas plutôt redistribution démocratique des richesses de toute façon mal acquises, vu que derrière chaque grande fortune, il y a un crime? Merci qui? Merci Che Guevara? Merci Marx? Non, merci Balzac. Robin des Bois, le prince des voleurs. Mais en fait, il s'appelait Robin Hood, hein, et pas Robin Wood. C'est-à-dire Robin à la capuche, et donc pas Robin des Bois. Et le hoodie, c'est la fringue de base du hip-hop. La boucle est bouclée, et ça, c'est une base du hip-hop. La boucle. Une autre base du hip-hop, c'est le sample, et c'est de ça dont cause ce bouquin. Qu'est-ce que le sample? Le sampling, c'est l'exercice qui consiste à prendre des morceaux existants pour en faire de nouveaux, prendre sans forcément payer pour, ce qui fera dire à Mark Volman, un musicien des Turtles, à l'occasion d'un de ses procès retentissants, donc pour usage de samples non voulus, il a dit « le sampling est juste un mot plus long pour dire vol ». On comprend bien qu'on va avoir du mal à se mettre d'accord. Et peut-être c'est pas ça l'important. Et c'est ce que raconte Brice Miquelet dans ce bouquin. Il évalue toutes ses visions sur le sample, toute l'histoire du sample aussi, la technique. Et à cet égard, c'est un livre super précis, documenté, sérieux. Moi, j'ai eu du mal, mais j'étais très contente d'arriver jusqu'au bout. Mais c'est aussi, et c'est ça qui m'a plu le plus à moi, c'est l'histoire amoureuse. Parce que souvent, découvrir un nouveau sample, c'est faire découvrir une musique à laquelle on n'avait pas accès avant. Ça fait partie de l'ADN même de cette musique du hip-hop, d'être tournée vers les autres musiques, avec une compétition à l'intérieur entre les beatmakers pour dénicher les samples les plus inédits, les plus improbables aussi. Et ça, c'est toute la deuxième partie du bouquin. Il va prendre 100 titres de 1979 à 2017, des titres de hip-hop plus ou moins super connus, selon qu'on ait un cador en hip-hop, ce qui n'est pas mon cas, et avec leurs samples et leurs histoires mêlées. Moi, je vous ai choisi deux exemples qui sont tirés de l'âge d'or du hip-hop, parce que ce sont les années 2000 et que c'est ma jeunesse. Le chemin amoureux, par exemple, qui conduit en 1999 Dr. Dre, avec son album Aftermath, à un petit Arménien émigré en France, qui lui, en 66, pondait ça. Ok, on l'a tous reconnu, c'est le grand petit Charles Aznavour. Et en 1999, quand Dr. Dre découvre ça, ça donne ça. Bon, c'est un morceau énorme de Dre, c'est quand même joli le chemin. Deuxième exemple, là on est en 2000, il y a un petit mec qui arrive qui s'appelle Lil Bow Wow. Il a 13 ans, punaise, ça paraît jeune pour faire danser la planète. Et puis si... Alors si vous reconnaissez un peu le What's My Name, c'est parce que Lil Bow Wow, c'est le neveu de Snoop Doggy Dogg. Mais ces cordes-là, ces cordes que vous avez entendues, oh, mais elles viennent de beaucoup plus loin. Elles viennent de 1970, elles viennent de la France. C'est la musique d'un film qu'en France on connaît par cœur, au fil des multiples diffs télé avec cette figure tutélaire qui était Lino de Ventura. Les cordes d'un homme jeune aussi, il s'appelait François de Roubaix. Et on entend son travail dans un film qui s'appelle Dernier domicile connu de Giovanni. Ce qui est un peu triste, c'est que François de Roubaix, il est mort jeune lui aussi d'un accident. Il n'avait pas 36 ans, alors c'était dommage pour lui, dommage pour nous, dommage pour le hip-hop. Parce que finalement, le sample, c'est comme si John Lennon avait vu juste quand il disait « Imagine there is no country, pas de pays, pas de nationalité, pas d'âge, plus de vivants, plus de morts. » Merci le hip-hop. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous toutes les références de l'ouvrage, s'il vous plaît.
Alors, il s'appelle « Sample, aux origines du son hip-hop », Brice Miclet, Le Mot et le Reste, c'est la maison d'édition.
Elle a quitté les chemins de la philosophie pour venir un petit peu sur France Inter par Jupiter. Et on va aborder ce deuxième sujet avec vous, hein, qui a trait à cela, c'est la succession de Johnny, qui continue d'alimenter les journaux, à présent sous l'angle sociétal. C'est-à-dire que la question de l'héritage dans les familles est abordée, et en particulier dans le cas des familles recomposées, avec cette question, peut-on déshériter ses enfants? Ou alors, à contrario, comment gérer un lourd héritage, bien sûr?
Je hais mon père, c'est un nazi.
Mon père est un salaud.
J'ai honte d'être son fils.
Non mais oh! Comment tu parles de ton père?
T'as pas honte?
Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que sa fille est doux. Hein. Ça, la mère de là-bas, t'es mouffetée pas. Et les gamins, pareil!
Mais enfin, son père était nazi.
Peut-être. Mais c'était quand même son père.
Jean Dujardin, Alex Lutz et Louise Monod dans OSS 117, Rio ne répond plus, le film de Michel Hazanavicius. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Héritage, comment éviter les conflits avec cet article « Peut-on déshériter ses enfants ?» Là aussi, Adèle Vanderet, non mais est-ce que, là aussi, finalement c'est une question de société, est-ce qu'elle est sous-tendue par peut-être une question philosophique, peut-on déshériter ses enfants? Est-ce que, comme c'est la question de l'intimité, de la vérité?
Alors si votre question c'est est-ce qu'on peut philosopher à partir de tout, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois,
chic.
Mais oui, alors ça on peut faire, et on peut faire des dissertations, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en philo, hein, mais il y a des choses intéressantes à dire sur tous les sujets, ça j'en suis persuadée.
Raphaël Entoven, il gagne bien sa vie avec ça.
Et ben voilà, donc c'est vous qui le dites. Et les faits divers sont exactement un truc génial pour montrer comment on peut réfléchir et dire des choses intelligentes sur des choses qui paraissent anodines. Un fait divers, c'est ce qui structure toute la société. Pourquoi est-ce que cette question-là elle est intéressante? C'est parce que tout le monde s'identifie à Johnny, ce qui est quand même un comble, parce que personne ne mène la même vie que lui. Oui. Mais tout le monde s'est posé cette question d'héritage, soit en tant que fils ou en tant que père. Et la facilité avec laquelle la société se divise en deux, avec d'un côté Laetitia et de l'autre Laura et son frère et David, montre qu'il y a une espèce d'envie de jouer la meilleure série de l'année en étant les personnages principaux. C'est ça en fait que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas leur monde et notre monde. Ouais. C'est assez contemporain, c'est que l'écart entre les stars et nous-mêmes, il s'est vraiment réduit.
C'est réduit.
Ah, maintenant, on peut s'identifier à tout le monde sur Instagram.
Bah, on a entendu Edith, hein, qui connaît la vie de Johnny Parker. Hein.
Ouais. Nous, on est humoristes, souvent dans les soirées, les gens nous disent fais-nous une blague. Est-ce que vous rêvez parfois
C'est pas les blagues, malheureusement.
Est-ce que vous, parfois, vous rêvez de répondre à une question par oui ou non?
Non.
Elle est forte, elle est très forte.
C'est vrai, dans votre description, comme vous êtes passionné de cinéma, il y avait une description presque cinématographique de ce sujet, avec les deux mondes, avec les familles.
En fait, une analyse de ma réponse. Ouais. Ah ouais, génial.
Vous analysez.
Ouais, c'est ça, d'accord. Vous me dites combien je vous dois à la fin. Mais...
Et puis, est-ce que ça pose aussi la question... Bon, en France, il est interdit de priver ses enfants d'héritage. Manifestement, en Californie, on peut. Est-ce que là, il y a aussi la question de la loi qui doit créer une égalité ou de la loi qui peut régenter l'intime, etc.
Ça, c'est une question passionnante. Mmh. Et d'ailleurs, on se la pose aussi dans le cas du harcèlement en ce moment. Est-ce que la loi peut intervenir dans la vie privée ? Parce que les personnes qui sont pour la pénalisation du harcèlement de rue, est-ce qu'ils sont pour le harcèlement dans la chambre à coucher, dans un espace privé ?
Et c'est d'ailleurs l'objet d'une de vos dernières émissions, Adèle Van Rett, les chemins de la philosophie.
Mais vous êtes une bonne auditrice.
Et voilà, sur les relations entre la loi et le désir.
Le désir peut-il se soumettre à la loi ?
Exactement. Ouais.
On peut balancer, elle a écouté en faisant du rameur.
Ça me va très bien. Mais je pense que 90% de mes auditeurs font du sport en m'écoutant. Ça me va très bien, je vais devenir coach sportive.
Mens sana in corpore sano.
Exactement.
Bien sûr, on muscle le cerveau et on muscle le reste, mais il n'y a pas de raison. Hein, d'ailleurs, vous félicitez pour vos podcasts. Il paraît que vous êtes l'émission la plus podcastée de France Culture, voire peut-être de Radio France.
Maintenant, je crois que vous êtes devant, mais parce que vous trichez un peu. Vous additionnez les chroniques et du coup, vous avez des moi, j'ai pas.
Vous avez qu'à faire des chroniques.
Ouais, c'est ça, pour en faire. Si vous voulez venir un peu m'aider, d'ailleurs, dans le chemin de la philosophie, je vous accueille.
France Culture nous a jamais rien demandé. Étonnamment.
On en reparlera.
Mais on va peut-être vous faire réaliser quelque chose que vous aimez. Alors, vous faire jouer la comédie
avec
nous.
Bien sûr, le sketch de fin d'émission. Attention.
Ah, je suis tellement contente de faire ça.
Parce que ça gronde à la SNCF. Le statut de cheminot est un petit peu en danger. Et Macron s'est dit, tiens, je vais envoyer une philosophe pour parler avec la CGT.
Donc je joue mon rôle.
Vous jouez votre propre rôle. Charline, Guillaume et moi, on est prêts à en découdre. Attention, on y va.
Grève générale.
Bonjour à tous, merci pour cet accueil musical. Je suis envoyé par Monsieur Macron.
Macron, démission !
Attendez. Est-ce que vous connaissez Paul Ricoeur ?
Bon, allô, dis donc, on connaît Paul Ricoeur.
Tiens, René, resserre-moi un apéro, tiens.
Mais non, Ricoeur. Le philosophe.
Chez nous, ce sont les usagers qui sont philosophes, madame.
Ouais, rapport à toutes les pannes, faute d'entretien des lignes.
Bon, voilà. Par exemple, Paul Ricoeur a dit...
Qu'est-ce qu'il a dit ?
L'homme, c'est la joie du oui... dans la tristesse du fini.
C'est à peu près aussi clair que la politique tarifaire de la maison.
Il y a grave la médiatrice.
Mais non, pas du tout. Écoutez, appliquez la citation de Paul Ricoeur à la SNCF.
Tant qu'on trouve, il y aura déjà eu trois plantages, gare Montparnasse.
Bon, je vous aide. L'homme, c'est la joie du Ouigo dans la tristesse de Pépi. Vous voyez quand vous voulez. Bon, ça commence à rentrer la philo, là.
Mais parce qu'il a dit gna,
oui, enfin bon, nous abordons ici la pensée profonde d'Alain Finkielkraut.
Et BHL, et qu'est-ce qu'il en pense de la réforme de la SNCF ?
Bon, pas grand-chose, lui, il évite les cheminots, ça pourrait salir sa chemise.
Et Raphaël Antoven ?
Bah, personne ne l'écoute, il est sur Europe 1. Ah, c'est méchant.
Paix à son âme.
Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à faire cuire les merguez ou quoi ?
Bah, c'est le rapport Spinoza qui vous met dans un état pareil.
Ah, vous voyez de la philo partout.
C'est pas Spinoza, c'est Spinetta, madame.
Et finalement, la philo, c'est peut-être plus compréhensible.
Bon, est-ce qu'au moins vous avez lu les correspondances de Diderot ?
Elle est super calée en matière de correspondance.
Ah, ouais. Renier Diderot. Ligne 1, ligne 8.
Bah, ouais, voilà. C'est ça, le fameux philosophe Ruy.
Ça la calme à l'intello, là.
Bon, vous savez quoi ? Je pense que vous devriez un peu plus écouter France Culture.
Pensez à une émission en particulier ?
Ouais, ça s'appelle Les chemins de fer de la philosophie.
En fin d'émission, il a toujours la guitare qui le démanche, alors il gratte un petit peu.
C'est ça, c'est Frédéric Foimet. Et aujourd'hui, il va nous chanter de ce problème qu'il y a de moins en moins d'oiseaux dans nos campagnes.
Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les corneilles. Bye bye les étourneaux, les mésanges, c'est pareil. Ça fait pas rire les oiseaux, les perdrix, les tourterelles. On est tellement crado qu'on fait de la terre une poubelle. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, 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 pas rire les oiseaux. Oh, oh, oh. Une chanson d'adieu, c'est comme un traitement au nitrate. Allez, vas-y, va un lieu que je te pulvérise, que je te sulfate. Une chanson d'adieu, c'est le poison dans la campagne. Le comble serait que les oiseaux s'exilent à Paname. Si ta vie est devenue morbide, pleine de pesticides, de néonicotinoïdes. Il y a toujours une mélodie pour te dire que c'est cuit-cuit. Allez, bats un peu des ailes, essaye un peu plus fort. C'est beau une ritournelle qu'on reprend pour ta mort. Ça fait pas rire les oiseaux, ça les fait pas rire du tout. Ça nique les corbeaux, ça flingue les petits piou-piou. Ça fait pas rire les oiseaux, y'en a pas un qui s'esclaffe. Déjà qu'ils avaient le cœur gros à la mort d'Edith Piaf. Ça fait pas rire les oiseaux. Oh, 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 pas rire les oiseaux. Oh, oh, au moins nous n'aurons plus jamais un appétit de moineau. Nous ne bavarderons plus comme la pie qui parlait trop. Au moins on ne pourra plus nous prendre pour des pigeons. Mais nous ne serons plus jamais gais comme des pinsons. Si tu n'as plus un insecte à te mettre dans le bec. Si jamais l'homme te débecte. Si petit à petit on te défait ton nid. Allez bouge un peu tes plumes, fais tes dernières vocalises. Avant que l'on te fume pour un caca sur le pare-brise. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les abeilles. On s'emballe au jabot tant que brille le soleil. Ça fait pas rire les oiseaux, ça fait pas rire les alouettes. On vole tellement pas haut qu'on saccage notre planète. Ça fait mourir les oiseaux. Oh, 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 mourir les oiseaux. Oh, 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 mourir les oiseaux.
Alex, là on est arrivé au bout du scotch.
C'est vrai, on est fatigué un petit peu. Ouais.
Mais demain, on change de rouleau, alors ça va aller beaucoup mieux.
Demain, on va même se mettre sur les pédales.
Oui,
on a un cycliste.
Oui, c'est vrai, exactement. Romain Bardet sera avec nous, ainsi que Emmanuel De Vos.
À demain.
Quel programme à demain.